Shalom, shalom, qu'est-ce que je puis faire pour toi?
Je suis prêt à me convertir si tu arrives à m'expliquer toute la Torah pendant que je me tiens sur un pied.
Et tu peux tenir longtemps comme ça, sur un pied?
Non, j'ai pas beaucoup d'équilibre.
J'accepte de relever le défi que tu me lances. Alors, je vais te résumer tout ceci en te disant, ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Voici toute l'essence de la Torah. Tout le reste n'est que commentaire. Maintenant, va et étudie. Cette situation telle que nous venons de la reproduire a été vécue par un grand sage du nom de Hillel, qui était un Jésus était un de ses contemporains. Hillel a passé plusieurs années à Babylone et il est arrivé à Jérusalem pour se former pendant 40 ans et ensuite il a formé des disciples pendant le même nombre d'années. Hillel donne ici sa compréhension de Lévitique 19-18. C'est l'un des passages où Dieu parle de l'amour que l'on doit porter pour son prochain. Où il est dit, dans ce passage où Dieu parle par l'intermédiaire de Moïse, « Aime ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel ». Ce commandement est universellement considéré dans le judaïsme comme l'un des fondements de l'éthique des cinq premiers livres de la Bible, la Torah. Et de la Torah à toute la Bible hébraïque, et pour nous, de la Genèse à l'Apocalypse. Ce commandement est omniprésent. Par exemple, dans les récits des évangiles, Jésus est questionné plusieurs fois sur quel est le plus grand commandement. Et à chaque fois, il répond ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Si je procède à une déduction logique, si le second commandement est semblable au premier, c'est qu'il ne peut exister sans le premier commandement. Les deux sont de même nature, nous dit Jésus. Illustrons cela par une formule mathématique. Si A est égal à B, c'est que normalement B est égal à A. Si donc l'amour envers Dieu qui serait le A est égal à l'amour envers le prochain qui serait B, l'amour envers le prochain est égal à l'amour envers Dieu. Si donc quelqu'un aime son prochain, il aime Dieu. L'amour pour le prochain est ainsi une réflexion de l'amour que l'on porte pour Dieu. Les rabbins de toute génération sont unanimes sur l'importance fondamentale de ce commandement. Et ce n'est pas Jésus qui s'y oppose. Ainsi, chacun d'entre nous doit mettre tout en œuvre pour en comprendre profondément le sens. Dans les minutes qui suivent, j'ai repris presque souvent textuellement ce que disent deux rabbins qui traitaient de la question. Et je vous propose de prendre pour cette première partie de nous inspirer de ces réflexions tout en gardant à l'esprit que ce n'est qu'une partie du débat. Le texte suggère que pour aimer son prochain comme soi-même, on en déduit que nous nous aimons nous-mêmes. Est-ce que vous vous aimez vous-même ? Car autrement, sinon, comment le « comme toi-même » serait une référence de l'intensité d'amour que l'on porte à son prochain. Le verset nous commande « De même que tu t'aimes, aime de la même façon ton prochain. » Et je me permets d'insérer à cette réflexion un petit témoignage de Joyce Meyer sur la question. Joyce Meyer est une prédicatrice américaine.
Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Je ne parvenais pas à aimer les autres parce que je ne m'aimais pas moi-même. En ce qui me concerne, j'étais quelqu'un de très difficile à vivre. J'avais l'impression que tout le monde, à part moi, avait un problème. Je pensais que si les autres pouvaient seulement se comporter correctement, j'aurais beaucoup moins de mal à m'entendre avec eux. Je serais beaucoup plus heureuse s'ils changeaient et arrêtaient de m'irriter continuellement. Aussi stupide que cela paraisse à présent, c'était exactement ainsi que je raisonnais. Cela éveille-t-il un écho en vous ? Toutes mes relations étaient boiteuses. Je ne parvenais pas à aimer les autres parce que je ne m'aimais pas moi-même. Et je ne m'aimais pas parce que j'avais du mal à comprendre à quel point Dieu m'aimait et prenait soin de moi. C'était un cercle vicieux et j'en étais prisonnière. C'est alors que Dieu me révéla cette vérité toute simple. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. J'ai fini par prendre conscience que je n'aimais pas les autres parce que je ne m'aimais pas moi-même. Si j'étais tellement prompte à voir les problèmes de ceux qui m'entouraient, c'est parce que je refusais de voir combien Dieu m'aimait. Lorsque je découvris que je pouvais apprendre à m'aimer et à travailler en premier lieu sur ma relation avec moi-même, mes rapports avec les autres et avec Dieu s'améliorèrent. Il m'a paru clairement que tout était lié. Lorsque vous regardez continuellement à vos propres fautes, vous êtes incapable de voir l'amour et l'acceptation de Dieu à votre égard. Il ne veut pas que vous vous attachiez à tout ce qui vous semble mauvais en vous. Il veut que vous fixiez vos regards sur lui et lui seul. Joyce Meyer.
Vous pouvez, si jamais, retrouver ces enseignements sur YouTube et même en français. Des clés de compréhension nous sont données pour aimer son prochain comme soi-même, sur comment le faire, par Naïmanide et Heidels, qui sont deux figures importantes du judaïsme. Naïmanide vécut entre le XIIe et le XIIIe siècle, et Heidels vécut entre le XVIe et le XVIIe siècle. Pour Naïmanide, le « comme toi-même » exprime le devoir de chaque juif d'aimer son prochain au point d'être heureux de le voir réussir matériellement et spirituellement sans que cette réussite n'éveille aucune jalousie en nous. Et même si cette réussite dépasse sa propre réussite. Naïmanide explique que cette forme d'amour que la Torah exige de nous interdit la moindre jalousie et qu'elle permet d'extirper jusqu'à toute rancœur de notre cœur. Pour Heidels, oui, c'est ça. Pour Heidels, ce n'est pas sans raison qu'il, elle, a choisi une formulation par la négative. Vous rappelez la règle d'or, ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Il aurait pu choisir une forme positive. Fais à ton prochain ce que tu aimerais que l'on te fasse. Heidel soutient que ce choix à la forme négative n'est pas fortuit. En effet, si Heidel savait exprimer les choses par la positive, on aurait pu arriver à un contresens. Je crois que j'étais trop loin là. Je pense que j'appuie trop sur les boutons. Ils auraient pu arriver à contresens. Tout ce que tu fais pour toi, fais-le à ton prochain. Ce n'est évidemment pas l'intention de la Torah. Dans le passage cité de Lévitique 19-18, le commandement d'aimer son prochain comme soi-même se trouve placé après ceux de ne pas garder rancœur ou de ne pas haïr son frère. Ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse, comme tu n'aimerais pas qu'on te garde rancœur. Ne le fais pas. Tu n'aimerais pas que l'on te haïsse? Ne le fais pas. Il ressort des points de vue de Naïmanide et d'Idels que pour parvenir au niveau d'aimer son prochain comme soi-même et ne pas lui faire ce que l'on n'aimerait pas subir, il y a tout un travail préparatoire à faire. En effet, comment parvenir à ne pas jalouser quelqu'un qui parvient mieux que nous, qui réussit mieux que nous, ne serait-ce que dans la même entreprise? Comment ne pas garder rancœur à quelqu'un qui nous a fait du mal? Cela paraît presque inhumain, irréalisable, nous disent les rabbins. En réalité, si on a effectué un travail préparatoire, on peut parvenir à ce niveau presque surhumain. Ce travail consiste à développer en nous la vertu du regard bienveillant, c'est-à-dire dès le départ considérer l'autre avec bienveillance. Le proverbe 22:9 nous dit « L'homme dont le regard est bienveillant sera béni ». La différence entre avoir un bon cœur et un regard bienveillant réside dans le fait que celui qui a un bon cœur cherche à faire du bien à l'autre, tandis que celui qui a un regard bienveillant cherche à combler l'autre. Il cherche à faire jouer les autres de tout ce dont ils auront besoin, sans limite. C'est pour cela qu'il mérite la bénédiction divine. À l'extrême opposé, celui qui a un regard malveillant est dérangé par la réussite et la prospérité de l'autre. Œuvrer avec énergie au bien-être de l'autre, s'efforcer de faire ses éloges est le meilleur chemin pour parvenir à éveiller des sentiments purs d'amour envers son frère ou sa sœur, son prochain. Donner son temps, son argent, ce qui fait partie de moi, c'est faire de l'autre une partie de moi-même. Par nature, l'homme, vous en conviendrez, l'homme avec un H majuscule, est profondément attaché à ce qui lui appartient. Une partie de moi se trouvant chez l'autre, il devient un peu moi-même. Ainsi va se créer une identification et un amour envers son prochain. Ainsi, si tu veux t'attacher à l'autre, donne de toi-même. On peut observer ce phénomène par l'amour que donnent les parents à leurs enfants. L'amour le plus fort est très certainement celui d'une mère qui porte ses enfants, et c'est elle et c'est à eux qu'elle donne le plus. Au départ, ce n'est pas parce qu'elle les aime qu'elle leur donne, c'est parce qu'elle leur donne qu'elle les aime. Elle a souffert pour les porter, pour leur donner la vie. Elle se lève la nuit pour les nourrir, et plus elle donne d'elle-même, et plus elle les aime. Mais alors, qu'est-ce qui nous empêche de s'attacher à l'autre de façon plus généralisée que la situation que j'ai présentée de parent à enfant? Si on réfléchit bien, l'égocentrisme est bien souvent une question qui nous empêche d'aimer son prochain comme soi-même. Toute personne est focalisée consciemment ou inconsciemment sur ses désirs égoïstes. L'autre ne l'intéresse souvent que pour ses propres intérêts. C'est pour éviter qu'on en arrive à de telles situations que dans la Torah, vous trouvez de nombreuses interdictions comme ne pas tuer, ne pas voler, même ne pas désirer les biens ou la femme qui ne nous appartiennent pas. Ainsi, le sage Hillel nous enseigne comment concrètement suivre la démarche. Ce que tu n'aimes pas que l'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Chacun est très certainement à même de savoir ce que cela veut dire et ce que cela peut représenter, de par son expérience. Car, comme nous l'avons rapporté, nous sommes très proches de nous-mêmes et de nos besoins. Par cette approche dans laquelle on fait participer notre ego, on peut parvenir à reconnaître les besoins de l'autre. Et si on y parvient, afin d'entretenir de bons rapports avec les hommes, on y parviendra aussi afin de respecter nos devoirs envers Dieu. Ce qui nous empêche d'être un serviteur de Dieu, c'est aussi notre ego, n'est-ce pas ? Or, les sages disent, l'orgueilleux et l'éternel ne peuvent pas résider dans une même demeure. D'après cette explication, le « comme toi-même » exprimé dans le texte prend un tout autre sens. C'est grâce à un regard sur soi-même et une réflexion sur ce que tu n'aimes pas que l'on te fasse qu'on peut parvenir à aimer et respecter son prochain. Pour conclure, la tradition nous rapporte qu'un autre grand sage, par un travail intense intérieur, était parvenu à percevoir dans chaque être l'étincelle divine qui était en lui au-delà des apparences. Il voyait dans chaque être humain des créatures de Dieu, et car il aimait Dieu, il aimait aussi ses créatures. Il appliquait sous aucun doute dans toute l'intensité le commandement « tu aimeras ton prochain comme toi-même » dans son sens textuel et positif. Espérons qu'un jour, nous puissions ressentir un peu de ce noble sentiment. Fin de citation. Je laisse maintenant la parole à Sarah pour la deuxième partie.
Alors c'est sûr, l'amour divin, l'amour des autres, c'est un très grand thème. Pour être honnête, j'ai recommencé 5 fois ce que j'avais envie de vous dire. Dans un premier temps, je me suis dit, je vais prendre le texte de 1 Jean 4, versets 7 à 12, qui parle de l'amour de Dieu. Définir l'amour de Dieu, comme il est impossible pour nous d'arriver à le saisir sans l'aide du Saint-Esprit. Et comment faire pour répondre à un amour si grand? Et après, je me suis dit, non, il faut aller dans le concret. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'Église? Qu'est-ce qui se fait comme don d'amour? C'est vrai qu'il y a des personnes qui font toutes sortes de visites dans diverses institutions. Il y a des personnes qui s'engagent pour l'escale, pour des associations diverses. Il y a même récemment un groupe Entraide Amandier qui s'est créé. Mais c'est un sujet délicat. Est-ce que j'allais penser à tout ce qui se fait? Ne vexer personne. Alors un troisième sujet m'est venu en me disant, j'avais un petit feuillet de Un moment avec Jésus qui parlait de, voilà, le plus n'est pas toujours le mieux. Plus on en fait, c'est pas forcément que c'est meilleur. Et ça m'a fait penser à des personnes de mon entourage qui ont cet amour de toujours vouloir aider, qui sont tellement serviables que si on a besoin d'aide, on va automatiquement leur demander encore à eux parce qu'on sait qu'ils répondront par la positive. Et ces personnes-là finissent par s'épuiser. Et leur corps, eh bien, certaines fois, il dit non par la maladie ou divers troubles. Aime ton prochain comme toi-même. Ne pas oublier la deuxième partie, comme toi-même. Prendre soin de soi pour pouvoir aussi mieux aider les autres. Puis il y a eu la prédication de Matthias qui nous a parlé de la gloire, de l'honneur. Et je me disais, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on fait ce qu'on fait? Est-ce que par amour de Dieu? Ou quelque part, on a aussi une petite satisfaction de nous-mêmes? C'est-à-dire, en voyant la reconnaissance de ceux qu'on a aidés, de ceux qu'on a aimés, On a quand même voilà, un petit bien-être personnel. Et comme dernier point, je me disais, bon, effectivement, si on aime vraiment Dieu, on se doit d'aimer ses créatures. Alors, aimer ceux qu'on ne voit pas trop souvent. On arrive à passer une heure avec une personne, même si elle nous irrite un peu, on peut faire bonne façon, on peut être aimable. Mais qu'en est-il dans la vie de tous les jours, avec ceux qu'on voit jour après jour? C'est plus difficile. Une petite remarque est vite arrivée, une petite critique par-ci, par-là, échappe quand c'est sur le long terme. Finalement, eh bien, je vais vous raconter une histoire qui, d'après moi, c'est un personnage qui a vécu du temps de Jésus. Et sa vie, son exemple de vie, eh bien, résume un peu tout ça. Bon. Alors, c'était la nuit. Tout était calme, tranquille. Il y avait une petite brise qui venait de la mer et qui nous caressait la peau. Une petite odeur iodée soufflait dans l'air. Dans une petite pièce, en haut d'une maison, il y avait une petite lumière qui brillait. Une femme, assise devant une table, couverte d'étoffes diverses, de lainage, de fil, de toutes sortes de matériel de couture. Eh bien, elle était là, dans le calme de la nuit, à coudre. Enfin, elle avait fini. Alors, elle rangea son matériel et alla se coucher. Demain, elle pourrait aller porter les manteaux qu'elle venait de terminer. Ainsi, une famille de plus dans Jaffa pourrait dormir sans avoir froid. Tout avait commencé le jour où elle avait remarqué le petit Ruben qui était dans les jupes de sa mère. Elle avait pensé qu'il était timide avec son frère aussi, ils étaient tout le temps là, dans les jupes. Et puis, ça avait fait tilt dans son esprit. Ce n'était pas la timidité qui les faisait se réfugier dans les robes de leur mère. C'est qu'ils avaient froid et ils cherchaient un peu de chaleur maternelle. Et en regardant la maman, elle vit qu'elle cachait aussi des petits tremblements. Alors une fois rentrée chez elle, elle alla vers la grosse malle en bois d'olivier. Elle enleva un peu la poussière. Elle l'ouvrit. C'était presque sa boîte à souvenirs. Elle avait mis là toutes les affaires de ses enfants quand ils étaient petits. Elle les déplia. Ils n'en avaient plus besoin maintenant. Ils étaient grands. Ils étaient partis de la maison. À quoi servaient ces souvenirs ? À prendre la poussière. Alors elle choisit les plus belles pièces et les emballa. Elle alla les porter à la veuve Barthélemy, vous savez, celle qui habite au coin de la rue, après le boulanger. Elle fut émue devant les regards de reconnaissance, plein de larmes, qui accueillit son présent. Alors elle commença à ouvrir les yeux d'une façon différente. Et bientôt, sa malle fut vide. Alors elle partit au marché et elle alla acheter des étoffes pour confectionner elle-même ce qui pourrait être utile aux autres. Alors les soirs, on entendait le cliquetis de ses bracelets chaque fois qu'elle passait l'aiguille à travers les étoffes. Et un soir, une petite toux vint lui chatouiller la poitrine. « Oh, c'est pas grave, ça passera. » Mais Au fur et à mesure des jours, ça n'est pas passé. Elle devait carrément s'arrêter de travailler parce que les quintes étaient devenues de plus en plus fortes. Puis, la fièvre se rajouta à tout cela. Et un jour, les voisins ne la virent pas sortir. Elle, qui était la première levée et la dernière couchée, ils s'inquiétèrent. Ils allèrent taper à la porte. Personne ne leur ouvrit. Il était trop tard. Les croyants de l'assemblée à laquelle appartenait Tabitha, eh bien, ils avaient entendu parler que Pierre, l'apôtre Pierre, il n'était pas loin, juste à Lydde, 3 heures de marche. Alors ils se concertèrent, envoyèrent 2 messagers. Allez le chercher. Ils n'eurent pas besoin d'engager des pleureuses, comme c'était la coutume à l'époque. Tant la maison de Tabitha était pleine de monde, de veuves, de personnes démunies, qui pleuraient à chaudes larmes au pied de leur bienfaitrice, tout en préparant son corps. Ils la déposèrent dans la petite pièce en haut de la maison, là où elle avait passé tant de nuits à confectionner chemises et manteaux. Pierre arriva le jour même. Il monta dans la pièce. Et à cette époque, il n'existait pas encore les petits bracelets « What will Jesus do ?» Mais certainement qu'il se souvint de ce qu'il avait vécu avec Jésus, de ce que Jésus, lui, avait fait dans pareilles circonstances. À Capernaum, quand Jaïrus était venu lui demander de sauver sa petite fille malade, et que quand ils étaient arrivés, c'était trop tard. La petite fille était morte. Qu'avait fait Jésus ? Jésus avait fait sortir la foule. Pierre demanda aux gens de sortir de la pièce. Jésus avait pris la main de la petite fille. Il avait dit, « Talita kumi, petite fille, réveille-toi, lève-toi. » Et hasard des circonstances, la personne-là s'appelle Tabitha. Talita, Tabitha. C'est presque pareil. Alors il fait pareil. « Tabitha, lève-toi. » Et voit les paupières qui s'ouvrent. Et quand Tabitha, elle voit Pierre, elle s'asseye. Et il l'aide à se relever. Il appelle les croyants et il la leur présente bien vivante. Et à Joppé, la nouvelle se répand. Et bientôt, beaucoup de monde croit en Jésus. Alors, le mot de la fin, c'est « allons ». Allons avec la force que le Seigneur nous donne. Allons avec la sagesse du Saint-Esprit. Portez l'amour du Père aux autres.